France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au petit matin. Au programme du 5-6 ce matin, de l'info, des chroniques et l'esprit de Noël qui commence à nous gagner. Portrait d'un diplomate marin dans les chroniques littorales, ambiance de fête à 5h40, grand reportage consacré au foie gras. Le foie gras, l'un des ingrédients phares des coffrets de Noël que confectionne aussi notre invitée. Déjà debout, elle travaille dans une épicerie mosellane et sera avec nous à 6h moins le quart. Juste avant 6h, Café Philo nous propose une tranche de bonheur et puis plaisir d'offrir de la musique. Et quelle musique ce matin ? Rosalia est dans la chronique playlist. Vous pourrez aussi danser, notamment sur Nous Santa Rabbit ou Second Door ou Tudor Cinema Club. Voilà, vous avez le menu de fête. C'est parti, je vous accompagne jusqu'à 9h.
France Inter.
Et on commence avec le journal d'Anne-Sophie Balbir. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Le calme est revenu vers 23h hier soir en Ariège.
Dans le village des Bordes sur Arize, après des heurts entre agriculteurs et gendarmes, des dizaines de manifestants s'étaient rassemblés pour empêcher l'abattage de 200 vaches à cause d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse. Retour sur cette soirée sous tension, Nicolas Joly.
Une colonne de gendarmes fait face aux agriculteurs. Elle avance lentement, mètre par mètre, sur la route qui mène jusqu'à la ferme. Marianne, éleveuse, regrette un tel face-à-face.
Gaz lacrymogène, puis ces trucs qui font du bruit là, vous les voyez, vous les entendez, vous le sentez, on est obligé de reculer. Voilà, on nous traite comme des casseurs.
Mais les agriculteurs ne veulent rien lâcher, surtout les jeunes en première ligne. Ils improvisent des barricades. Grégory sait qu'il ne gagnera pas la bataille, mais tant pis.
Leur montrer que malgré tout, on est quand même présent et on n'est pas d'accord. Et qu'on ne se laissera pas marcher sur les pieds si facilement.
Mais à chaque blocage, c'est la pluie de lacrymogène. Kevin Audouy, vice-président de la coordination rurale de l'Ariège, recule lui aussi en direction de la ferme.
On a un dispositif, il y a 15 camions de CRS actuellement là, qui sont en train d'avancer. Il y a des centaures, donc c'est les blindés des CRS. Enfin, on a l'impression qu'on est du grand banditisme. Quoi.
Il pense surtout à l'éleveur qui va perdre son cheptel.
Je l'ai vu aller avec sa famille voir les bêtes, avec ses petits-enfants, ses enfants. Enfin, franchement, moi ça m'arrive demain chez moi, je ne me vois pas aller avec ma fille voir mes bêtes et lui dire « regardez-les bien parce que demain elles ne seront plus là ».
Une fois la ferme prise, encerclée par les forces de l'ordre, les agriculteurs commencent à se disperser. Certains échangent des numéros de téléphone et discutent déjà des prochaines actions à mener.
Nicolas Joly, dans les Hautes-Pyrénées, c'est un troupeau d'une vingtaine de bêtes qui doit être abattu aujourd'hui. Des dizaines d'éleveurs sont mobilisés pour empêcher l'action des services vétérinaires. Le gouvernement doit publier aujourd'hui sa stratégie de lutte contre le changement climatique. Ce ne sera pas le grand soir, prévient déjà la ministre de la Transition écologique Monique Barbu dans les Échos. Il est notamment question de déployer les pompes à chaleur, de promouvoir les véhicules électrique. Côté agriculture, la consommation de plus de légumes est encouragée, mais la viande n'est pas explicitement ciblée. C'est une terrible nouvelle, un choc, un coup très dur porté à l'industrie française. Réaction du président de la région Centre-Val-de-Loire sur la liquidation de Brandt, le groupe centenaire d'électroménagers va disparaître en laissant quelques 700 salariés au chômage, malgré le soutien des pouvoirs publics prêts à investir environ 20 millions d'euros. Il aura manqué quelque chose comme 5 millions pour boucler le dossier. Pas grand-chose finalement, selon Cyril Aubert, délégué CFTC et secrétaire du CSE.
L'État s'est mobilisé. Le ministre, je l'avais rencontré il y a 10 jours et on avait effectivement promesse d'investissement de 5 millions. La région Centre-Val-de-Loire s'est extrêmement investie également. Honnêtement, vous savez, c'est très complexe hein, la situation de l'électroménager en Europe et encore plus en France. Je pense que avec un peu plus de temps, on aurait peut-être pu trouver une assiette plus large de financeurs et notamment de financeurs privés. Et malheureusement, le temps nous a un peu manqué. Donc oui, on a malheureusement pas réussi à boucler l'équation. Et donc, je fais un parallèle parce que nous, pour 5 millions, on va perdre 700 emplois et que vous avez des joueurs de foot qui sont transférés pour 80 millions d'euros. Voilà, c'est assez paradoxal tout ça parce que mais on vit dans ce monde-là.
Et dans le secteur de l'habillement, de nombreuses enseignes sont également en crise. Aujourd'hui, c'est le groupe de prêt-à-porter IKKS qui va être fixé sur une éventuelle reprise. Parmi la dizaine d'offres déposées initialement, une semble tenir la corde. Elle permettrait de sauver la moitié des effectifs. IKKS emploie quelques 1000 salariés en France.
Donald Trump de plus en plus exaspéré par les négociations qui doivent mettre fin à la guerre en Ukraine.
Le président américain est extrêmement frustré par les deux camps impliqués. Il veut des actes, il en a assez, des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir, fait savoir la porte-parole de la Maison-Blanche. Les États-Unis demandent notamment à Volodymyr Zelensky de retirer ses troupes du Donbass, une concession territoriale qui, selon le dirigeant ukrainien, devra dans tous les cas être tranchée lors d'une élection ou d'un référendum. La Colombie se dit prête à offrir l'asile au président du Venezuela s'il quitte le pouvoir sous la pression des États-Unis. Nicolas Maduro, qui accuse Washington d'avoir inauguré une ère de la piraterie navale criminelle dans les Caraïbes. Réaction du dirigeant à la télévision publique alors que mercredi, Donald Trump a annoncé la saisie d'un pétrolier vénézuélien. La plateforme américaine Reddit a lancé une action en justice contre l'interdiction des réseaux sociaux moins de 16 ans en Australie. L'entreprise estime dans sa plainte qu'elle devrait être retirée de la liste des sites bannis par le gouvernement et que cette législation pourrait isoler les adolescents d'expériences communautaires adaptées à leur âge.
Le sport et le football à 5h06, sixième journée de Ligue Europa.
Lyon a dominé le club néerlandais Go Ahead Eagles 2-1. L'OL conforte sa première place et assure au moins sa place en barrage. En revanche, la série noire continue pour l'OGC Nice. Encore une défaite 1-0 hier soir à domicile face aux Portugais de Braga. Le Gym reste bloqué à la dernière place au classement et a définitivement dit adieu à la qualification. Maxime Bacquier.
Dans l'indifférence générale, avec à peine 3700 spectateurs hier soir, pire affluence à l'Allianz Riviera. Thiago Gouveia et les Aiglons sont pourtant rentrés dans les mémoires en enchaînant ce 8e revers de suite, ce qui n'était jamais arrivé au club en 121 ans d'histoire.
On sait déjà que c'est un record très, très mauvais pour nous. On n'est pas content, on est sûr de ça et on sait ça. Mais on est ici pour changer ça, on est ici pour gagner les matchs.
Le défenseur faisait partie hier soir des 8 changements opérés par Franck Haise au coup d'envoi pour tenter de donner un peu d'air à une équipe au bord de l'asphyxie.
Quand on perd 8 matchs de suite, on manque un peu d'oxygène, ça c'est une réalité. Pour autant, on ne va pas faire nos prochains matchs sur le sommet du Mont-Blanc. Donc l'oxygène, c'est à nous d'aller la chercher. Et on va la chercher uniquement en faisant les choses tous ensemble avec beaucoup d'énergie.
Une énergie entrevue en seconde période, mais qui n'a pas empêché le Gym de devenir la première équipe française à enchaîner 18 matchs sans victoire en Europe. Encore un record à laisser de côté pour le coach niçois.
Il y a tellement de choses que moi déjà, personnellement, je ne maîtrise pas, et que les joueurs ne maîtrisent pas, mais ce qu'ils peuvent maîtriser, c'est qu'on essaie de donner le maximum.
Sauf que le rebond passe par Lens. Dimanche, leader de Ligue 1 dans son stade Bollaert, pas le meilleur endroit sans doute pour se redresser.
Les précisions de Maxime Bacquier.
C'était le journal d'Anne-Sophie Balbir. Il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Une couleur pour définir la journée, Céline Dacosta.
La grisaille sera encore bien présente sur la moitié nord ce vendredi matin, avec des brumes et des brouillards toujours fréquents. On aura également des grisailles avec là aussi des brouillards dans la vallée de la Garonne et près de la Méditerranée, où le ciel va rester bien couvert sur le Var, les Bouches-du-Rhône ou encore le Languedoc-Roussillon, avec quelques gouttes qui seront encore possibles sur ce secteur. Dans l'après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain sur toute la partie sud. Le ciel sera encore bien couvert au nord de la Loire et les températures minimales seront comprises entre 4 et 9 degrés. Quant au maximal, elles regagnent quelques couleurs. Elles iront de 9 à Strasbourg jusqu'à 18 à Ajaccio, selon Météo France.
La météo de Céline Dacosta.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter, un kayakiste diplomate des fonds marins, tout un programme et c'est dans les chroniques littorales. Notre invitée déjà debout est presque un lutin du Père Noël, elle travaille dans une épicerie au moment de Noël, on l'appellera à 6h moins le quart. Et puis vous découvrirez l'origine incroyable du speed dating, ça c'est dans la chronique d'où ça sort. Et Tanguy Pastureau, lui, maltraite l'info. Il nous parle des bébés animaux. Ce sera à 5h25. Mais avant ça, un titre, Couleur du temps. Il vient de rejoindre la playlist France Inter. Marlon Magné, ex du groupe La Femme, chante Nuages gris. Bon réveil.
Ah, ah, nous. nouveau jour qui commence. Et pourtant c'est l'angoisse qui recommence. Je ne comprends pas, pourtant aujourd'hui il fait beau. Et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. T'as déjà eu ce truc comme une vis dans la tête. Et le cœur qui fait bim bam bim bam boum. J'ai le mal, juste mal de vivre. Oui je sais c'est rien, y'a des choses plus graves dans la vie. Mais se sentir bien, c'est quand même important. C'est sûrement cette fille, c'est sûrement cette fille. Je vais peut-être la retrouver, elle va peut-être se décider. Mais en attendant, je suis seul et j'attends. Pourquoi ce nuage gris encore sur ta tête? Je te l'avais dit, si tu continues comme ça. Je te laisserai là-bas, je te laisserai là-bas. Au milieu de tes fracas, je te laisserai là-bas. Tu te demandes si tu avances. Et pourtant les mêmes tracas qui recommencent. Je ne comprends pas pourquoi quand le bonheur est là. Et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier sous la lune, j'ai encore rêvé de toi. Et ton cœur qui fait bim bam bim bam boum. Ça fait mal à vivre. Mais c'est pas très grave, juste un aléa dans la vie. Mais se sentir bien, c'est tellement important. Ce n'est pas cette vie, ce n'est pas cette vie. Tu ne dois pas la retrouver, mais tout simplement l'oublier. Car en attendant, tu es seul et tu attends. Quand ce nuage gris est revenu sur ta tête, je te le redis, allez mieux ne dire qu'à toi. Si tu continues comme ça, tu resteras tout seul là-bas. Car elle ne reviendra pas, tu resteras tout seul là-bas.
Gris de Marlon Magnier, c'est tout neuf. Il sera à Lille le 24 mars, à Lyon le 25 et le 2 avril à Saint-Étienne. 5h12, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Et ce matin, José-Manuel, vous recevez un diplomate marin.
En la personne de Olivier Guyon-Var, Marion. Et c'est vrai, c'est un diplomate marin. Olivier Guyon-Var, bonjour.
Bonjour José.
Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Jamaïque et surtout représentant permanent auprès de l'autorité internationale des fonds marins. C'est la raison pour laquelle on vous appelle le diplomate marin. Comment avez-vous vécu ce passage dans cette autorité internationale des fonds marins?
Écoutez, j'ai été pendant 4 ans, de 2021 à 2025, ça s'est terminé en septembre, représentant permanent auprès de l'AIFM, on va l'appeler.
On va l'appeler, oui, on va prendre l'acronyme.
Voilà, c'est plus simple. Et il s'est quand même passé pas mal de choses pendant ces 4 ans, toute modestie gardée.
Oui, mais enfin, vous avez vécu de près, justement, cette actualité des fonds marins et leur préservation.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur l'élaboration du futur code minier.
Il faut l'expliquer, le code minier, il y a des pays qui veulent mettre des mines tout au fond de l'océan et puis voilà. Commencer à faire ce qu'il ne fallait pas faire sur Terre. Ils veulent le faire dans l'océan.
Voilà, c'est ça. Et donc, mais c'est une obligation juridique. La Convention de Montego Bay oblige l'autorité des fonds marins à adopter un code minier en vue de cette éventuelle future activité. Évidemment, nous, la France, nous sommes contre, mais beaucoup d'États sont eux pour. Et Montego Bay, c'est ce qu'on appelle la constitution des océans. C'est elle qui organise toutes les activités en mer, la navigation, la pêche, etc. Et notamment la future exploitation, l'éventuelle exploitation des fonds marins. Les fonds marins sont vraiment au cœur de Montego Bay. D'où l'extrême importance d'édicter des règles de protection de l'environnement extrêmement strictes, car ces milieux sont assez peu résilients, en fait. C'est la raison pour laquelle la France a pris la tête d'une coalition, d'abord sous l'égide de M. Hervé Berville, ministre de la mer de l'époque, en faveur d'une pause de précaution, slash moratoire, ça dépend comment les gens l'appellent en fonction des perspectives, qui aujourd'hui regroupe une quarantaine d'États et qui disent attention, il est encore trop tôt pour se lancer dans cette nouvelle activité tant qu'on n'a pas de certitude qu'elle pourra avoir lieu sans dommages graves et irréversibles à l'environnement.
Alors, Olivier Guyon-Var, qu'est-ce que ça veut dire en vous-même d'être, on va le dire, un diplomate marin?
Alors, je suis un marin kayakiste, je fais du kayak de mer. Je crois que j'ai été le seul ambassadeur à jamais accueillir une frégate de la marine nationale au large du port avec mon kayak, justement à Kingston. Mais la pratique du kayak, en fait, où on est au ras de l'eau, en contact direct avec l'eau, avec la nature, ça montre concrètement l'importance de la protection de l'océan. Et moi, ça me passionne parce que c'est l'occasion de travailler travailler à la fois pour son pays, mais aussi de défendre une cause qui est universelle. Défendre quelque chose qui est au bénéfice de l'humanité tout entière, c'est vraiment extrêmement valorisant pour un diplomate, parce que ça donne vraiment du sens à la mission. Et on peut se dire, quand on rentre le soir à la maison, on se dit, tiens, on a essayé de faire notre possible au nom de notre pays, dont on est fier, pour l'environnement. Et ça, pour moi, c'est extrêmement gratifiant.
Bien évidemment, pour l'humanité. L'océan a été bien décrit par de nombreux et célèbres géopolitologues. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on voit la naissance d'une diplomatie maritime ?
Oui, tout à fait. Et je crois que cette diplomatie maritime de la France est reconnue dans le monde. Alors nous, c'est la diplomatie douce, on va dire, hein. Et puis il y a la diplomatie un petit peu plus musclée, qui est portée par la Marine nationale. Et là aussi, nous, marins et diplomates, nous travaillons vraiment ensemble. On est dans le même esquif et nous ramons dans la même direction pour déployer cette diplomatie française sur les océans. Rappelons que les océans, c'est 70% de la surface du globe. Quand même.
Oui, et Olivier Guyon-Var, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la mer ?
Pour moi, la mer, je me sens extrêmement privilégié d'avoir la chance de pouvoir travailler sur un sujet, un objet qui me passionne et dont je me sens très proche.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit en Jamaïque ?
Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la mère en Jamaïque ? C'est une belle question, ça. Elle m'a dit « Sois heureux ».
Merci à vous, Olivier Guyon-Var.
C'était un vrai plaisir, merci.
Un site internet, celui de l'Autorité internationale des fonds marins, isa.org. Bonne journée, Marion Lour.
Bonne journée et soyez heureux, José-Manuel Lamarque. Il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
À la une de la presse ce matin, la version pile et face du contexte économique français. Des bras zéro flambent en une de Libération devant l'usine Brandt de Vendôme dans le Loir-et-Cher et des ouvriers alignés ensemble, peut-être pour la dernière fois, car leur entreprise va être liquidée. Désindustrialisation Brandt, le choc, c'est le titre. 700 salariés au chômage, précise le quotidien qui y voit une illustration des impasses de la politique de réindustrialisation. Brandt est aussi en une du Parisien. Petit encart et bras zéro là aussi. Et ce titre, sobre, l'électroménager made in France, liquidé. Chef d'entreprise, la tentation de l'exil, ça c'est le gros titre de une. Un homme en costume tourne les talons. Les patrons seraient fatigués par l'instabilité politique, déçus des récentes réorientations budgétaires, précise le Parisien. De plus en plus, ils songeraient à s'expatrier. Si les échos mentionnent Brandt, eux aussi, c'est le fabricant de batteries Vercor qui occupe la une. Photo d'une usine qui démarre, elle, près de Dunkerque, dans le Nord, 1,5 milliard d'euros investis, dont la moitié viennent d'aides publiques. Au chapitre éco, les députés tous perdants sur le budget, ça c'est la une de l'opinion. Selon le quotidien, les Français portent un regard sévère sur ces élus, accusés de ne chercher que la polémique, de ne penser qu'à leur intérêt. Le budget de la sécurité doit être soumis aux sénateurs et revenir devant les députés pour validation le 16 décembre prochain. À Mayotte, l'État renie ses promesses, cri d'alarme en une de l'Humanité. La une de la Croix, elle revient sur ces prisons qui détruisent. La surpopulation carcérale atteint un seuil historique. Des évêques se rendront dimanche dans 102 établissements à l'occasion du jubilé des détenus. Le Figaro, lui, s'intéresse à nos enfants, ou plutôt à ceux qui ne naissent pas. Garde, logement, ces entraves au désir d'enfants des Français. C'est l'analyse du quotidien de droite qui rappelle que la fécondité ne cesse de s'effondrer depuis 15 ans. Pour le Figaro, le principal frein est financier. Et à propos d'enfants, Noël a mais c'est toujours Noël pour Mattel, nous assure le Parisien Week-end. Les jambes d'une Barbie apparaissent en une derrière une pile de cadeaux. Films, séries, parc à thème. À 80 ans, le géant du jouet a encore des surprises dans sa hotte, promet le Parisien. On verra bien. On les pensait disparus avec l'avènement des applis, les rencontres en chair et en os appelées speed dating reviennent à la mode. Les célibataires ont de nouveau envie de se voir en vrai. Mathieu Noël et son équipe ont zoomé sur le renouveau des speed dating. Mais au fait, Cyril Lacardière, le speed dating, d'où ça sort ?
Imaginez la vie moderne, le début des années 2000, on travaille trop, on est stressé, on est seul et on n'a pas de temps, et surtout pas de temps à perdre avec des rendez-vous interminables qui se terminent souvent par « en fait oui mais non ». Et c'est comme ça que, comme le reste du marché, le dating est devenu justement un marché, et comme tout marché, il doit être optimisé, on cherche donc l'efficacité maximale. Quand la drague devient efficace et se règle à coups de clochette toutes les 7 minutes, heureusement l'histoire, elle est plutôt marrante. C'est à un rabbin qu'on doit cette idée, Yaakov Deyo. Ça se passe à la fin des années 90 du côté de Los Angeles. Son but à ce rabbin, c'est de faciliter les rencontres au sein de la communauté juive. À l'époque, les jeunes célibataires se côtoyaient déjà dans des événements, mais il fallait des heures pour faire le tour de la salle. C'était long et c'était surtout rébarbatif. Yaakov Deyo imagine donc un système qui permet de faire connaissance avec un maximum de personnes en un minimum de temps. Et la clé, c'est juste cette notion de temps. Elle permet de faire retomber la pression du résultat et de la réussite même. Si c'est chiant, rassurez-vous, le calvaire ne durera que quelques minutes. Et puis évidemment, ce qui devait permettre de resserrer une communauté religieuse va vite être récupéré par le monde profane et capitaliste. Et voilà qu'apparaît le speed dating, sorte de chaîne de production de la rencontre amoureuse. Vous avez des tables numérotées, des femmes qui restent assises, des hommes qui tournent à la cloche. On coche des cases sur une feuille, oui, non. Et si le oui est réciproque, on recevra les coordonnées de l'autre. Sinon, ciao, bye bye, pas de temps à perdre. Le concept fonctionne tellement bien qu'il est adapté à tout et à n'importe quoi, même au boulot. Alors d'où ça sort le speed dating ? Eh bien de la simple idée d'un rabbin.
C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Dans une semaine tout juste, sachez que l'équipe sera en direct depuis le studio 104 de Radio France. Il reste des billets, n'hésitez pas. Les réservations se font via la billetterie sur le site Maison de la Radio et de la Musique, toutattaché.fr. Il est 5h20 sur France Inter et dans un instant, l'humour de Tanguy Pastureau qui nous parlera de Noël et d'animaux. Mais tout de suite, un sextet néerlandais au son indonésien dont on vous parlait récemment dans la chronique playlist Nusantara Rabbit et leur irrésistible titre Tamat. Tamat de Nusantara Rabbit, Tamat qui veut dire la fin, mais pour eux ce n'est que le début. Ils seront par exemple au Point Éphémère à Paris le 28 janvier prochain.
France Inter.
Et à 5h25, l'humour de Tanguy Pastureau qui se demande s'il faut offrir un animal pour Noël. La question lui est venue grâce à la stagiaire de l'émission.
Emma Beaujean s'approche avec ce regard affirmé des jeunes gens que la vie n'a pas encore brisé comme des putains de cracottes. Elle sort son téléphone, me le met sous le nez et là s'affiche une photo d'elle et d'un chiot ou d'une chiotte. J'ai pas vu si c'est un mâle, une femelle ou un chien qui ne se définit pas à travers la notion de genre. Je dis à Emma, oh là là, trop choupi, c'est qui ? Elle me répond, c'est moi. Je dis, non, l'autre, un peu d'humilité. Elle me répond, c'est Gigi. Emma donc a un chiot que vous pouvez admirer sur ses réseaux puisque 70% du contenu désormais c'est ce chiot. Les amis, on craque sur les chats, sur les chiens, parce qu'ils sont mignons. À un moment, Michel Larocque avait craqué sur François Baroin pour les mêmes raisons. Moi, j'ai un chien, un Parson Russell. Ce sont des chiens de chasse, mais je l'ai rendu pacifiste. Il a fait un sandal camp avec le chanteur Antoine et Lana Del Rey. Sandal camp, c'est comme le boot camp quand on a envie de douceur. Depuis, quand il voit un lapin, il lui fait des câlinous. Avoir un chien, comment dire, c'est comme vivre avec Old Laf. C'est qu'il y a des moments où il faut le réfréner. Non, pas ce calembour. Old, il va t'emmener de l'autre côté de l'acceptable. Mais ça apporte tellement de bonheur. Enfin, ça, c'est ce qu'on vous dit dans Chien Magazine. Parce que je pense que les articles sont écrits par des chiens. Parce qu'en réalité, pour éviter les futurs abandons, il faut vraiment que je vous parle des contraintes, il y en a beaucoup. Contrainte numéro 1. Vous avez à votre chien le même rapport que le valet de Louis XIV avait à Louis XIV. Vous ramassez ses crottes. Certes, il y a des sacs à chiens, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de sacs à roi. Contrainte numéro 2. Un chien, un chat, ça coûte cher. Les vaccins, les visites chez le véto, les os de poulet coincés dans la gorge, les chiens font ça. Il vaut mieux avoir un poulet. Jamais un poulet va se coincer un os de poulet. Il n'y a pas de poulet cannibale. Sinon, à louer dans la Sarthe, ce serait atroce. Vous rentreriez 900 poulets, deux mois plus tard sortirez du hangar un poulet de 4 mètres d'envergure avec des plumes plein le bec, c'est le raid qui serait obligé de l'abattre. Butez-moi cet énorme poulet ! Donc, un animal de compagnie, ça coûte cher. Et il n'y a pas d'allocation de la CAF au bout de deux chiens. Hein, il faudrait en créer une, de CAF pour chien. La WAF. Hein, ouais, c'est une fin d'année. Voilà, ne me jugez pas, je ne sélectionne plus, je mets tout. Contrainte numéro 3, le temps passé. Pas de temps, pas d'animaux. Moi, j'y consacre une heure le matin avant de venir à la radio et il faut le faire courir. J'ai déjà lancé plus de balles que Pete Sampras sur l'ensemble de sa carrière. Le midi, pareil. Le soir, pareil. Et à 23h, il faut faire pipi. Pas moi, lui. Dans le quartier, je me retrouve avec tous les gens qui promènent leurs chiens. On parle de chiens. Il faut adorer les chiens. Je me suis préparé quelques phrases clés que je dis tout en pensant à des trucs intéressants. Je dis, oui, non, laissez-les renifler, ils font leur vie de chien. Et je pense, mais quand Socrate disait « je sais que je sais tout » ou « que je ne sais rien », que voulait-il indiquer précisément ? Il faut que j'en parle à Lille et à Cadour. Si je vous dis tout ça, c'est parce que bientôt c'est Noël et que le ministère de l'Agriculture, dont dépendent les animaux de compagnie, hein, bizarrement, parce que j'ai rarement vu un Yorkshire ramasser des patates, bon, alerte sur les animaux cadeaux qu'on fait aux enfants. Pourquoi ? Parce que le 24 décembre, on est dans l'euphorie. On sort du paquet un petit chien, on s'en occupe parce qu'on est le 25, puis le 26, le 27, et un jour, on est le 5 janvier. On revient travailler à la bande originale, on regarde Daniel Morin le teint allé, en se disant qu'il a dû prendre l'avion pour les Seychelles et qu'on va le balancer à l'équipe de la Terre au carré, tandis que le petit chien, lui, reste seul. Le mien, je le laisse au personnel de maison. Mais tout le monde n'est pas assez altruiste pour confier son repassage à de courageux migrants sans papier qui ont besoin de faire vivre leur famille à l'autre bout du monde. Seuls des gens de gauche comme moi font ça. Or, un chiot, quand il est seul, il fait des bêtises. Il fout le dawa, comme disait le secteur A. Il urine sur le tapis, il ronge les pieds de l'armoire, l'armoire tombe, s'écrase sur le tapis imbibé d'urine, l'urine éclabousse les murs, dont cette prise mal fixée, école clo-clo, ça fait court-circuit, la maison s'embrase, le chien s'en sort, parce que c'est ma chronique et que dans mon monde, les chiens s'en sortent. 17h, la famille rentre du travail, de l'école, 22h30 s'ils habitent la banlieue et qu'ils ont dû franchir la porte maillot. Voit la maison en ruine et abandonne le chien. 45 000 abandons chaque année avec un pic après les fêtes. Et même sans maison qui brûle, il faut se dire qu'un chien va bousculer votre vie. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous prenez un robot aspirateur. Regardez Emma, avant d'avoir Gigi, elle était terne. Et depuis Gigi, mais c'est une autre dame, pétillante, joyeuse, elle se douche. Pourquoi ? Parce qu'elle a un chien, que ça va durer de 10 à 15 ans, que quand il meurt un jour, on est ravagé. CF, une ancienne chronique que j'ai faite et dont on me parle toujours. Ouais. Que quand on sort trois fois par jour le balader, en fait, on se balade soi, ça fait du bien. Et que si on se dit tout ça, il n'y a pas de raison d'abandonner son animal. Ce n'est pas un cadeau anodin. Pensez-y, par pitié.
Et c'était l'humour de Tanguy Pastureau qui maltraite l'info dans la bande originale de Nagui et Leïla Kaddour. Ils recevront tout à l'heure l'acteur Guillaume Gallienne, bien connu de vous, chers auditeurs, pour le film Lady Nazca, en salle depuis mercredi, dans une poignée de secondes, le journal.
Tous les samedis, venez découvrir le monde à travers les yeux de la science.
France Inter, 11h, Christophe Galfard.
C'est encore l'automne, le temps merveilleux des balades en forêt. Alors avec deux scientifiques et mon invité mystère, nous vous emmenons à la chasse aux champignons. Les meilleurs évidemment, mais surtout les pires.
Big Bang.
C'est tous les samedis à 11h sur France Inter.
5h29 sur France Inter et voici tout frais arrivé Ali Badou qui me rejoint dans ce studio. Bonjour Ali.
Bonjour Marion.
Au programme aujourd'hui de notre 6-9.
À 6h20, en ce jour anniversaire des 10 ans de l'accord de Paris sur le climat, vous recevrez Jean-François Soussana qui est président du Haut Conseil pour le climat. À 7h45, le débat éco avec Thomas Porcher et Dominique Seux autour de ce choc après la liquidation de Brandt, 700 salariés au chômage. Et cette question, la France peut-elle encore défendre ses marques? Et puis à 8h20, l'invité du grand entretien invité et eux, ce sera Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon et proche d'Edouard Philippe. Voilà pour le programme, Marion.
Et à tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal, Anne-Sophie Belbir. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Une première piste pour expliquer l'épidémie fulgurante dans un collège d'Occitanie il y a une semaine.
Dans l'établissement Jules Verne du Saulet, vendredi dernier, plus de 400 élèves, enseignants, agents avaient en quelques heures été pris de maux de ventre, de nausées, de vomissements. 13 adolescents avaient même dû être un temps hospitalisés. Hier, la préfecture des Pyrénées-Orientales et l'Agence régionale de santé ont donné des résultats d'analyse partielle. Baptiste Guy. La cause virale et alimentaire est privilégiée.
Une conclusion qui fait suite à l'enquête épidémiologique réalisée auprès des malades. 414 personnes ont répondu au questionnaire en ligne. Il en ressort que les symptômes, nausées, vomissements, fatigue, sont apparus chez la plupart des élèves en quelques heures entre le milieu de l'après-midi et la soirée et qu'ils ont duré en moyenne pendant 2 jours. Compte tenu de ces éléments, l'ARS estime que l'hypothèse la plus probable est une toxi-infection alimentaire collective à norovirus. En clair, certains ont, en mangeant, attrapé une gastro non bactérienne et le virus, très contagieux, avec un temps d'incubation très court, s'est ensuite propagé à la vitesse de l'éclair. Un norovirus a effectivement été retrouvé dans les selles de certains malades. Pourtant, les analyses effectuées sur le réseau d'eau et dans les plats de la cantine n'ont révélé pour l'instant aucune anomalie. Les résultats définitifs sont attendus ce vendredi. Depuis cet épisode, le collège Jules Verne tourne au ralenti. Seuls 120 élèves sur les 600 de l'établissement étaient de retour en classe hier.
Baptiste Guillet, d'ici Roussillon. En France, les norovirus sont la principale cause de gastro-entérite aiguë, toute classe d'âge confondue. La ministre de l'Agriculture va-t-elle changer sa politique face à la dermatose nodulaire contagieuse? Hier soir, des affrontements ont eu lieu entre des manifestants et des gendarmes dans le village des Bordes-sur-Arize en Ariège. Plusieurs dizaines d'agriculteurs s'étaient mobilisés pour empêcher l'abattage d'un troupeau de vaches en raison d'un cas de dermatose. Les forces de l'ordre ont pris le contrôle de la ferme concernée. L'Assemblée nationale a adopté tard hier soir le renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée. Le texte était présenté lors de la journée réservée aux propositions du groupe socialiste. Les députés ont également dit oui à la poursuite de l'encadrement des loyers et à des mesures de protection des mineurs. L'une d'elles vise à garantir un avocat à chaque enfant placé ou suivi dans sa famille par des services sociaux. Il encourt la perpétuité mais clame son innocence. L'anesthésiste Frédéric Péchier connaîtra aujourd'hui la peine requise à son encontre. Il est jugé depuis 3 mois à Besançon pour 30 empoisonnements dont 12 mortels, décrit par l'accusation comme l'un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française.
Ça fait 10 ans jour pour jour que l'accord de Paris sur le climat a été adopté.
Signé dans un élan d'optimisme au Bourget en Seine-Saint-Denis, 10 ans après, les progrès restent limités, les émissions de gaz à effet de serre augmentent, oui, beaucoup moins vite, mais sont toujours en hausse. Donald Trump torpille le texte, chantre du climato-scepticisme. Il qualifie le réchauffement de canular. Et c'est pourtant un outil de coopération internationale indispensable, selon Benoît Faraco, l'ambassadeur français chargé des négociations sur le sujet.
C'est un accord historique, c'est un accord qui nous a permis d'éviter le pire. Avant Paris, on était sur une trajectoire de réchauffement à peu près 4 degrés. Aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire de 2,3 à 2,5 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Ça veut dire que l'accord de Paris, il marche, il a permis d'éviter le pire. Par contre, il est clairement pas suffisant, on va pas assez vite. Et donc, il va falloir maintenant changer d'échelle. Depuis 10 ans, on a vu le monde complètement changer. Les voitures électriques sont arrivées, les énergies renouvelables ont vu leur coût divisé par 10. Le pétrole, qui était tout puissant, est en train de connaître un léger déclin. qui va se confirmer, parce qu'aujourd'hui, y compris pour des raisons économiques, c'est plus rentable d'investir dans la transition que de continuer à polluer la planète avec les énergies fossiles. Si certains cherchent à déstabiliser l'accord de Paris, c'est justement parce qu'on a montré que la transition était possible. La vraie réponse, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les investissements, y compris aux États-Unis, dans les batteries, dans les voitures électriques, dans les réseaux intelligents, tout ça, ça ne s'est pas arrêté et ça veut dire que cet accord, il a rendu aussi la transition irréversible.
Disney vient de conclure un accord avec OpenAI. Son catalogue de plus de 200 personnages animés va pouvoir être utilisé sur Sora, la plateforme de vidéos créée par intelligence artificielle. Dans une lettre, le syndicat américain des scénaristes dénonce une opération qui semble valider le pillage de leur travail. Et puis en tennis, l'Open d'Australie va instaurer une cérémonie d'ouverture comme pour les Jeux Olympiques. Des légendes du sport seront invitées. Roger Federer, couronné 6 fois à Melbourne, inaugurera cette nouvelle tradition le 17 janvier, à la veille du début du tournoi.
Ouais, c'était le journal d'Anne-Sophie Balbir. Bonne journée, Anne-Sophie.
Merci.
Un vendredi gris, surtout sur la moitié nord. Quelques pluies arroseront la Bretagne. Attention au brouillard un peu partout sur le nord et dans la vallée de la Garonne. Après-midi, toujours couvert sur le quart nord-ouest et près des frontières du nord. Ailleurs, les éclaircies reviennent, sauf sur le Languedoc-Roussillon et le littoral provençal, toujours concerné par les nuages maritimes. Vent faible, sauf le vent d'Autan, jusqu'à 70 km/h sur son secteur. Côté thermomètre, prévoyez 6 à 11 degrés ce matin, 9 à 18 cet après-midi. 9 à Strasbourg et Dijon, 11 à Paris, Brest, Nantes et Nancy. 12 à Brest, 14 à Lyon et Clermont, 15 à Bordeaux, 16 à Biarritz et Perpignan, 17 à Nice et 18 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de plonger dans la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, bonheur, vous nous parlez d'un des disques de l'année 2025, sélectionné bien sûr par les programmateurs de France Inter.
Et c'est même le disque de l'année pour moi, s'il ne pouvait en rester qu'un, ce serait celui-là. Sortez les violons, Marion, les chœurs, sortez tout ce que vous avez, parce que la voix là, la seule, l'unique, vous l'avez reconnue.
Rosalia.
Et bien sûr. Et dire qu'en plus, elle est géniale. Et dire qu'en plus de Rosalia. Vous entendez ici le London Symphony Orchestra, un chœur catalan et allemand. Et plus loin, juste après, même la voix de Björk. Oui. Qui peut se targuer d'avoir concentré autant de talent et de force dans un geste auquel vraiment personne ne s'attendait. Plus de bachata ni de reggaeton. On pense ici plutôt à un concerto de Vivaldi, à l'opéra, pour le chant. La catalane a voulu pour ce quatrième opus, Lux, la lumière en latin, une direction radicalement différente. Pas de couplet-refrain, ni même de hit évident, pas de pied régulier sur lequel on peut danser, ni même une langue unique. C'est chanté en 12 langues,
ah oui.
Du français, du sicilien, de l'arabe, du japonais. Bon, le socle essentiel, c'est l'espagnol. Lux chante un rapport passionnel et critique à Dieu, à toutes les heures de la journée, et puisqu'on est de bon matin, des madrugas.
La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. Me pesa la cadena.
De madruga, un titre où Rosalia chante même en ukrainien par moment.
Oui, la croix sur la poitrine, calibrer mon corps pour se venger. J'en ai le droit, nous dit Rosalia, qui dans ce grand luxe nous parle aussi bien du paradis éternel que des plaisirs charnels, des tentations, des péchés, de la peur. Et tout ça avec un ton parfois moqueur. Il y a même un titre qui s'appelle « Dios es un stalker », Dieu est un harceleur. En ce moment, le morceau qui passe sur l'antenne France Inter, c'est le très ironique « La Perla ». Et j'avoue avoir moi un petit faible pour le titre en italien qui fait un peu penser à Verdi. Mais j'aimerais vous faire entendre la plus espagnole des pistes de luxe. Là, on en revient presque au flamenco, c'est la « Rumba del Perdón » en duo avec deux autres grandes chanteuses, Estrella Morente et Silvia Pérez Cruz. Toi et ton ami de cœur, vous étiez inséparables, mais quelque chose s'est passé.
Tu sonaba y ni sonaba el teléfono. No sería tan amigo cuando aflojó las cuerdas de la guitarra. De las primeras al bordón, y ahí dentro metió el kilo, igual que el kilo. Él también desapareció, pero yo toditos te los perdono. Yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que vendrás a mí. Dice en la calle que tú eres pa' mí, dice quién sabe que tú eres pa' mí, se dice en la plaza que tú eres pa' mí, dile a tu madre que tú eres pa' mí. Del plan divino,
el que le está gritando del quinto al cuarto a su vecino,
la que siempre está dando muela y en habladuría, el que nunca dice lo que piensan que debería.
Rosalía et son album Lux a retrouvé sur France Inter dans la sélection des 10 albums de l'année. Il n'y a que du bon.
Ah oui.
Merci Mathieu, on vous retrouve ce soir à 21h pour d'autres best-of de fin d'année.
Et puis des nouveautés, surtout Lean, The Alchemist, Swade Massi. Et puis je vous parlerai d'une fabuleuse collection de disques éthiopiques. Et je remets le son. À ce soir.
À ce soir. 5h42, les fêtes de fin d'année approchent et avec elles la dégustation d'un incontournable, le foie gras fait maison, acheté chez un producteur ou en grande surface. Les Français en raffolent et les chiffres le montrent. L'an dernier, près de 11 millions de Français en ont acheté d'après l'interprofession, plus 7,4% sur un an. Succès qu'on peut observer au célèbre marché au gras de Périgueux. Installé les mercredis et samedis, place Saint-Louis de novembre à mars, il attire les producteurs locaux et les clients s'y ruent. Luc Chemla s'y est rendu.
Il n'est même pas encore l'heure officielle d'ouverture du marché que les premiers clients sont déjà là, sac ou cabas à la main.
Voilà, donc deux fois. 690 et l'autre, il fait combien ?
Sur les étals, situés sous de grandes bâches, des bacs remplis de canards sont installés. Magrets, confits, cœurs, coups, carcasses et bien sûr du foie gras. Il y en a du déjà cuisiné dans des bocaux, mais ici, on vient surtout acheter du foie frais.
Oui, foie gras cru parce que je le fais moi-même. Hein. Je vais le faire rapidement et je vais le mettre au congélateur et je le ressors pour Noël. Moi, je me prépare, si vous voulez, c'est comme les cadeaux de Noël, je les fais pas deux jours avant.
J'achète un foie gras et deux magrets, c'est-à-dire que je les prépare maintenant parce que je suis une spécialiste. Qu'on fait ici, c'est le magret fourré au foie gras, en fait, et séché. Et donc, il faut le préparer à l'avance.
Parmi la clientèle, beaucoup de retraités, mais aussi quelques actifs venus juste avant d'aller au travail et pour avoir les plus beaux foies possibles.
Oui, moi, je suis venu tôt parce que je sais que ça part vite.
Il faut dire que pour ces périgourdins, impossible d'imaginer un Noël sans foie gras.
C'est un produit noble, hein, et quand il est produit dans de bonnes conditions et puis bien cuisiné, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Quand vous l'amenez, ça fait son effet. Après, il ne faut pas se rater dans sa préparation. Ça reste un repas de fête Noël, donc on essaye d'acheter des produits qu'on va pas manger tous les jours. On a un budget un peu plus conséquent sur le repas de Noël qu'au quotidien.
Le prix d'ailleurs ne refroidit pas la clientèle, et pourtant, comme le constate Sylvie...
Chaque année ça augmente de toute façon, ça prend 2-3 euros chaque année.
Confirmation au stand d'en face avec Denis, le sac rempli de foie cru et qui file chez lui en cuisine.
J'ai payé 55 euros le kilo, kilos, c'était 45 l'an dernier.
Les producteurs s'adaptent à la conjoncture, explique Alexandre Léon, animateur de l'association Foie Gras du Périgord.
Il y a une production moindre du fait des 10 années de grippe aviaire. Il y a aussi l'inflation qui a été quand même galopante pendant 2-3 ans, donc on en retrouve les effets encore aujourd'hui. Pour produire un kilo de foie gras de canard, un kilo de magret, eh bien, forcément le coût est plus important. Voilà, au niveau de l'aliment, au niveau de l'énergie, tous les coûts de production sont plus importants.
Concernant la grippe aviaire, depuis 2 ans, tous les animaux doivent être vaccinés. Pour l'éleveur, le coût est de 20 centimes par canard.
Et à propos de grippe aviaire, Luc, 7 foyers ont été découverts ces dernières semaines en Dordogne. Environ 70 000 canards abattus et l'ombre de cette maladie, elle plane toujours.
Oui, notamment au marché au gras à Périgueux, alors qu'ils sont une dizaine à vendre leurs produits. Un emplacement est lui vide. Il est situé à côté de celui d'Adrien Fayol, dépité.
Notre collègue qui ne peut plus venir, là, ben elle va louper tout ce mois de décembre. C'est celui qu'il ne faut pas louper. Elle est dans les moins de 10 km des foyers de grippe aviaire, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas abattre, donc pas avoir de frais à mesure des semaines qui défilent.
En Dordogne, différents professionnels sont impactés. Direction désormais vers, à une vingtaine de kilomètres au sud de Périgueux.
Voilà, donc ça c'est une salle de gavage vide, pas d'animaux jusqu'à on ne sait pas quand.
Olivier Palancher est gaveur. Normalement, 2000 canards devraient être actuellement répartis dans les 3 rangées de cages collectives. Mais la salle résonne car la grippe aviaire est passée par là.
Bah, c'est vide parce que nous sommes en zone protégée, parce que nous avons eu des cas de grippe aviaire à moins de 3 km de chez nous. On ne peut plus ravoir d'animaux jusqu'à nouvel ordre. La grippe aviaire est une maladie réglementée. C'est l'État qui impose et on ne peut pas déroger. C'est normal, enfin, c'est la loi. On ne peut pas aller contre.
Résultat, plus d'activité et ces 4 salariés sont au chômage partiel dans une période en plus cruciale.
On est à la merci de la grippe aviaire et puis là, elle nous bloque.
Olivier Palancher estime les pertes à environ 15% de son chiffre d'affaires annuel. Le gaveur est plutôt optimiste sur la possibilité de percevoir une indemnisation, même si pour l'instant, elle est réservée aux éleveurs impactés par la grippe aviaire.
Le succès du foie gras sous la menace de la grippe aviaire, c'était un reportage de Luc Chemla à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46 sur France Inter. C'est l'heure de contacter notre invitée déjà debout qui est presque un lutin du Père Noël puisqu'elle confectionne des coffres de Noël, des coffrets de Noël dans une épicerie de Montenac en Moselle. Bonjour Angéline Gams.
Bonjour Marion.
Alors pourquoi êtes-vous déjà debout, cher lutin du Père Noël?
Alors, j'ai toujours été matinale, d'abord de nature, et ensuite j'étais employée de banque au Luxembourg pendant 20 ans, et j'ai eu la chance d'arrêter de travailler. Et donc en été, je parcours les collines qui entourent notre petit village de Montenac, et à partir de début novembre, je deviens un petit lutin du Père Noël à la cave de la Klaus, à Montenac.
Donc dans une boutique qui vend toutes sortes de produits délicieux. Vous dites que vous avez eu la chance d'arrêter de travailler. En fait, vous étiez employé de banque et vous avez craqué.
Exactement. J'ai craqué avec... avec la charge de travail, le trajet, parce que le trajet est parfois compliqué jusqu'à Luxembourgville, mais voilà. Donc après, j'ai eu l'opportunité, grâce à Monsieur Kaff, qui m'a employée chez lui.
Donc ça, c'est le patron de l'auberge de la Klaus, là où vous travaillez.
Exactement. Et donc, je confectionne les coffrets qui sont offerts à l'occasion des fêtes de Noël, soit par les entreprises, soit par les particuliers. Et ces colis sont après parfois expédiés dans France ou livrés par l'auberge, par le magasin.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'auberge de la Klaus, donc ce magasin où vous travaillez, il produit du foie gras. Ça, c'est pas commun en Moselle, quand même. C'est plutôt un produit du Sud-Ouest, en général.
Oui, mais également en Alsace. C'est pas très connu.
C'est
mais,
vrai.
À l'origine, le foie gras vient d'Alsace. Et donc, Monsieur Kaff s'est lancé il y a plusieurs années de ça dans la production de foie gras. Et donc, il y a des animaux sur la ferme, donc cochons, canards, chapons pour les fêtes de Noël. Et les produits sont transformés sur place en terrine, en foie gras, jambon, saucisson. Et à côté de ça, et du gibier également, la saison. Et à côté de ça, une épicerie fine de produits sélectionnés, fromage, confiture et beaucoup de pain.
Et bergamote de Nancy aussi.
des bergamotes de Nancy. Donc, tous des produits sélectionnés. J'ai plutôt régionaux.
Oui.
Et puis voilà.
Et puis, vous arrivez tôt et vous faites ces coffrets pour qu'ils soient prêts avant l'ouverture.
Avant l'ouverture, où les clients viennent les chercher, c'est parfois des entreprises. Donc, ça peut aller de 10 coffrets à 210 coffrets pour une entreprise.
Sacré travail, 210 coffrets. Ça prend longtemps, ça?
Ça peut prendre du temps. Et puis, certains coffrets prennent plus de temps parce qu'il y a beaucoup de produits dedans. Donc, vous pouvez aller de 2 produits à 13 produits pour les plus gros colis. Et certains colis sont expédiés, donc il faut mettre chaque terrine sous bulle, chaque produit sous bulle, sous papier bulle.
C'est un sacré Tetris quand même pour faire rentrer tout ça dans des boîtes.
Voilà, il faut faire tout rentrer, que tout tienne, que tout soit beau à l'œil également. Et ensuite, c'est mis dans des cartons d'expédition parfois pour être envoyé. Ben, hier, il y a un colis qui est parti pour l'Espagne.
Tu es parti pour l'Espagne, donc il y a des clients étrangers également. Donc si j'ai bien compris, ça fait travailler les muscles et la tête. Et vous vouliez faire un petit coucou peut-être à l'un de nos invités déjà debout, c'est celui de la semaine dernière.
Ah oui, Étienne Carter, oui, puisque son miel est vendu chez nous. Et qui fait parfois partie des coffrets qui sont vendus sur place. Ou qui sont expédiés.
Donc ces produits sont également présents à l'auberge de la Closse. Un petit mot avant de se quitter sur cet endroit que vous habitez, Montenac. Vous dites que vous habitez au pays des trois frontières, c'est très joli.
Ben, c'est le cas en fait, parce qu'il y a le Luxembourg et l'Allemagne, pas très loin. Et l'auberge draine aussi beaucoup d'étrangers en fait. Et puis le Luxembourg est un pays un peu international, donc beaucoup d'anglais et d'étrangers. Donc voilà, et donc c'est vraiment un endroit international.
Et donc beaucoup de clients évidemment pour vos coffrets de Noël que vous allez donc continuer à préparer jusqu'à Noël. Merci beaucoup Angéline Gams à Montenac en Moselle de nous avoir répondu sur France Inter. Travaillez bien, joyeux Noël.
Merci à vous aussi, au revoir.
Au revoir. 5h51 sur France Inter. En attendant le Guy et les boules à facettes, batterie et guitare électrique, les Irlandais du groupe Tudor Cinema Club dans vos oreilles, What You Know.
I can't say it's what What You Know de Tudor Cinema Club, c'était en 2010.
France Inter. Le 5-6.
Et on va bien commencer la journée grâce à Café Philo ce matin et grâce à vous. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Bien commencer parce que nous parlons du bonheur.
Oui Marion, ici être heureux consistait à accepter de mourir. Mmh. Alors vivre debout et mourir libre, disait Sénèque, après tout, eh bien c'est peut-être ça le bonheur. Le vieux Sénèque s'y entendait en la matière, lui qui toute sa vie a cherché la joie, mais aussi la vérité, mais aussi l'honnêteté, mais encore la beauté. On vit mieux si on est lucide, pensait-il. Sénèque, le stoïcien, dont la vie fut un roman.
Le bonheur, un sujet qui intéresse tout le monde, bien sûr, et qui hante l'esprit de nombreux philosophes.
Hein. Oui, on a en la matière, on a que l'embarras du choix, Vladimir Jankélévitch, le grand Vladimir, unique et si précieux.
Le bonheur est capricieux, vous savez, il est comme l'amour. Il vient au moment où s'y attendait le moins. Il vaut mieux avoir de l'argent que ne pas en avoir. Il vaut mieux pouvoir voyager que ne pas pouvoir voyager. Il vaut mieux pouvoir aller au théâtre et au concert que d'en être privé. Mais une fois que vous réunissez toutes ces conditions et que vous avez énormément d'argent pour faire tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous plaît, eh bien vous sentez subitement un grand désert en vous. Une grande solitude, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi il y a tant de milliardaires qui s'ennuient. Nous les envions. Mais eux, ils s'ennuient, quelquefois ils se suicident tellement ils s'ennuient. Ils sont au comble de leurs vœux et ils ne sont pas heureux. Alors qu'est-ce qu'il leur faut pour être heureux ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? Eh bien, il leur faut probablement un peu d'insouciance, d'innocence, un retour à l'innocence. Et si je suis heureux, et je ne m'en aperçois même pas, car le véritable bonheur est inconscient de soi. Si je me dis, ah, ce que je suis heureux, oh, comme je suis heureux, nom de Dieu, ce que je suis heureux, alors il est temps de se méfier. Ça veut donc dire que mon bonheur est précaire, qu'il va se dissiper, n'est-ce pas ? Qu'il est fragile, qu'il est à la merci des circonstances. Quand je suis vraiment heureux, je n'en sais rien. Le bonheur est naturellement innocent. Alors, quelqu'un qui jouerait du piano pour se dire « ça va me dissiper mon ennui, mon spleen, va disparaître » et qui s'en sert comme de médicament, comment voulez-vous qu'il soit heureux ? C'est pas des conditions pour être heureux. C'est une condition de possibilité. Il vaut mieux avoir la culture pour avoir éventuellement les moyens d'être heureux. Mais il y a des gens qui n'ont aucune culture et qui sont parfaitement heureux et qui s'en passent.
Se donner les moyens d'être heureux, c'est tout un programme, ouais. Hein, Patricia. Deux invités ce soir pour en parler dans leur philo. Maxime Rovert, qui est auteur d'un essai sur Sénèque et traducteur de ses lettres à Lucilius, le tout publié chez Flammarion, et Mathieu Ricard, moine bouddhiste, bien connu du grand public, auteur d'un très beau livre de photos intitulé « Lumière » et publié chez Alary Éditions, et traducteur de textes de maîtres tibétains.
Oui, c'est un travail considérable que cette traduction, qui est publiée sous forme d'un livre intitulé « Long Chempa », et c'est publié aux éditions Panmakara.
À tout à l'heure, 20h10, Patricia.
À tout à l'heure.